Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous souhaitons la bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent en cette deuxième partie du Libre Journal des Amitiés Françaises. Je rappelle que Laurent est au téléphone, il sera ravi de prendre vos messages, vos questions que nous proposons à notre invité ce soir. Je rappelle le téléphone de la radio, 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Nous abordons donc cette deuxième partie et nous restons dans l'histoire militaire. L'une des raisons des succès tactiques de l'armée américaine en Afghanistan nous a expliqué lors de cette première partie d'émission le général Sidos. Eh bien, c'était l'agressivité des forces spéciales, l'agressivité des Rangers et des Marines, ce que nous qualifions aussi d'esprit et guerrier. La combativité de ces soldats américains, de ces troupes de choc américaines, a même surpris d'ailleurs à plusieurs reprises les rebelles afghans qui pourtant eux-mêmes sont de rudes et courageux et guerriers, et d'ailleurs leur esprit guerrier les a finalement menés à la victoire et à la chute de Kaboul en août 2021, comme nous venons de le voir. Eh bien, Clausewitz, au début du XIXe siècle, a été sans doute le premier, ou parmi tous les premiers, à souligner l'aspect essentiel du moral à la guerre. Et cette guerre d'Afghanistan, donc nous venons de voir l'histoire, montre à quel point l'idée de Clausewitz est juste. L'armée afghane a été vaincue par plus petit et moins puissant qu'elle, une fois que le soutien américain a disparu, parce que leur adversaire avait, en effet, ce moral de vainqueur. Clausewitz est à juste titre réputé comme le plus grand penseur de la guerre, de la tactique et de la stratégie militaire. Nous connaissons tous le titre de son livre de la guerre, un livre qui n'est jamais démodé et qui est toujours de référence après deux siècles. Mais que savons-nous de ce livre, d'ailleurs? Que savons-nous des idées développées par Clausewitz? Et notamment, Clausewitz, pour nous, c'est un stratégiste, c'est-à-dire c'est vraiment un penseur de la stratégie militaire. Eh bien, Clausewitz privilégie la bataille, le combat et la volonté à la stratégie. Quels sont donc les éléments principaux de la pensée de Clausewitz? Comment expliquer son actualité? Étudier l'œuvre de Clausewitz est indissociable de la connaissance de ce que fut sa vie, une vie trop méconnue, voire un peu dévalorisée. En effet, lorsqu'on parcourt un dictionnaire, un ouvrage résumant Clausewitz, eh bien, on se souvient de lui avant tout comme du directeur de l'école de guerre prussienne dans les années 1830, alors qu'il a été bien plus que cela. Il s'est révélé un excellent chef de guerre et pourtant il était opposé, c'est les troupes dans lesquelles il servait, d'abord les troupes russes, parce qu'il a servi sous les troupes russes en 1812 lors de la campagne de Russie, et puis après il est revenu dans les troupes prussiennes lors notamment de la campagne de France de 1815 qui s'achève par Waterloo. Et bien là, il est seul montre excellent chef de guerre, et pourtant il avait face à lui le génie de la guerre qui était Napoléon. Certaines de ses décisions, d'ailleurs, durant ces campagnes, celle de Russie et celle de France, celle de Belgique et de France après, furent cruciales. Dans la campagne de Russie, effectivement, il participe au fait, enfin il initie d'ailleurs ce désir, cette volonté qu'a l'armée prussienne de devenir neutre, de ne plus s'impliquer dans les combats, ce qui mettra l'armée française en grande difficulté durant cette retraite. Et puis la bataille de Wavre. Wavre, c'est une bataille qui est complètement oubliée, qui suit la bataille de Ligny et qui précède celle de Waterloo. Et bien la bataille de Wavre, en quelque sorte, permet à Blücher de rejoindre Wellington à Waterloo, avec les conséquences que l'on sait, que l'on connaît bien sûr, sur l'issue de cette bataille décisive. Voilà, ces exemples pour montrer que la vie militaire, son expérience de chef de guerre, eh bien, mérite notre intérêt parce qu'elles ont nourri la pensée de Clausewitz. Elles sont, à ce titre, indispensables à connaître. Et c'est justement, chers auditeurs de Radio Courtoisie, le but de cette émission, connaître Clausewitz, et grâce notamment à une biographie de référence qui a été écrite par un spécialiste très reconnu de l'histoire militaire napoléonienne notamment, et dont les ouvrages font référence. Alors ce livre, c'est tout simplement intitulé, très simplement intitulé Clausewitz. Il est écrit par Bruno Colson et publié aux éditions Perrin. Il vient d'être republié notamment dans la collection Tempus. Tempus est intéressant parce que pour une somme très modique, vous avez une somme, et justement, littéraire et historique. C'est le cas de celle après plus de presque 600 pages qui nous permettent à la fois de découvrir la vie de Clausewitz et l'œuvre, bien entendu, l'œuvre de Clausewitz en tant que stratégiste. Alors nous avons, bien sûr, ce soir, le plaisir de recevoir en direct Bruno Colson, qui est donc l'auteur de cette somme consacrée au général prussien Clausewitz. Bruno Colson, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour évoquer la vie de cet homme. Nous avions reçu, avec grand plaisir d'ailleurs, récemment, il y a quelques mois de cela, pour un autre ouvrage que vous aviez écrit, qui est tout aussi passionnant d'ailleurs, hein, qui était consacré à la guerre de Napoléon, qui était intitulé « De la guerre », et que vous avez publié chez Perrin. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur émérite à la faculté de droit de l'université de Namur, dont je crois que vous avez été le doyen d'ailleurs récemment, si je ne me trompe pas.
Il y a quelques années, de 2005 à 2009 exactement. Ouais,
c'est hier. C'est hier. Alors vous êtes bien sûr un spécialiste de l'histoire militaire des 18e et 19e siècles. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, outre celui consacré à Napoléon de la guerre, hein, de la guerre de Napoléon. Chez Perrin, vous avez aussi publié un livre de référence sur la bataille de Leipzig. Leipzig, oui, la bataille des nations, 16-19 octobre 1813, trois jours, hein, qui signe quasiment la fin de l'Empire, et ça vous l'avez publié aussi chez Perrin. Bruno Colson, je vais commencer tout simplement par le début, hein, les questions traditionnelles que l'on pose en début d'émission. Pourquoi écrire une biographie sur Clausewitz? Est-ce que la lecture, finalement, de son ouvrage de référence, hein, De la guerre, là, il a écrit d'autres textes, nous allons le voir, et très jeune, très tôt d'ailleurs, hein.
Oui.
Pourquoi une biographie sur Clausewitz?
Ben, tout simplement parce qu'on me l'a demandé.
On va passer à la question suivante alors.
Mais bon, ceci dit, ça m'a intéressé, beaucoup intéressé, mais les éditions Perrin m'ont demandé une biographie de Clausewitz. Donc, je l'avais déjà écrit sur lui dans des articles, des contributions occasionnelles, mais ici, ils m'ont demandé vraiment une biographie parce qu'il y en a. Bon, il y en a une en anglais de Peter Parrett, qui était professeur à Princeton, que j'ai déjà rencontré d'ailleurs. C'est surtout une biographie intellectuelle. Vous me direz, c'est le plus important chez Clausewitz, c'est vrai, mais je me suis attaché quand même à son parcours d'officier. Et donc, j'ai essayé de voir comment il s'était comporté durant les différentes campagnes, ce qui n'avait jamais été vraiment abordé, sauf avec des biais propres au 19e siècle, qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui.
Alors justement, peut-on, à vous lire, on a vraiment l'impression, parce qu'on est très réducteur en effet sur la vie de Clausewitz, on se rend compte à vous lire que c'était quand même un grand chef de guerre, qu'il a occupé des fonctions très importantes, qu'il a nourri sa réflexion par ses campagnes de Russie et de France, notamment, enfin de France, de Belgique, plus exactement, celle de Ligny ou Wavre. Et l'analyse de ce qui s'est passé à Waterloo, parce qu'il n'était pas à Waterloo, puisqu'il était à Wavre. En quoi ces écrits sont-ils nourris par son expérience? Autrement dit, s'il n'avait pas eu cette vie, vie militaire, ces guerres auxquelles il participe très jeune, hein, il se bat contre la France dès le début de la Révolution, il est tout jeune, il n'a même pas 20 ans.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que sa pensée aurait été différente, avec une moindre portée?
Oui, certainement, parce qu'il a évidemment vécu la guerre et donc il parle d'expérience. Mais il faut peut-être insister sur un point, c'est qu'il est né en 1780. Donc ça ne dit peut-être pas grand-chose à nos auditeurs, mais Napoléon était né en 1769. Donc il est assez jeune. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint, durant sa carrière, les plus grands commandements. Et en plus, il est mort en 1831. Donc oui, il est mort jeune, à 51 ans. Donc, il n'a pas exercé de grands commandements en chef, contrairement à Blücher, par exemple, mais qui était très âgé, contrairement à Napoléon, bien sûr, contrairement à Schwarzenberg, côté autrichien. Mais il a été souvent un chef d'état-major. Et donc, il était proche des commandants en chef, il parlait avec eux, il les conseillait, et il observait, il notait, parce que c'était quelqu'un de très cultivé. Il faut vraiment insister là-dessus. Ça m'a étonné, d'ailleurs, de voir à quel point il avait lu pratiquement tous les grands auteurs connus de toute nationalité dans sa jeunesse. Et encore plus tard, il avait un goût de la lecture, un goût de la réflexion intellectuelle. Et c'est tout ça qui explique pourquoi il est arrivé à saisir, au fond, l'essence du phénomène guerre. C'était un peu son objectif, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passait vraiment dans une guerre. Et c'est d'ailleurs en cela que il reste actuel, parce que quand on fait évidemment abstraction des conditions de combat propres aux guerres napoléoniennes, on se rend compte que Clausewitz a vraiment mis le doigt sur un certain nombre de phénomènes humains éternels. Et donc, la guerre, malheureusement, bon, on le voit encore aujourd'hui, c'est un phénomène humain éternel. Il y aurait de quoi, évidemment, gloser sur les événements récents à partir de ce que Clausewitz a écrit, parce que bon, il avait aussi c'est pas quelqu'un qui aimait l'action militaire irréfléchie. C'était pas du tout un bravache, c'était quelqu'un qui aimait réfléchir. Il se lançait pas comme ça dans le combat comme certains aiment le faire, hein. Il faut des gens comme ça, évidemment, il faut des leaders qui mènent les troupes au combat. Il a une expérience vraiment de combat, je dirais, au ras du sol à Hochstedt en 1806, parce qu'il avait un grade assez inférieur et donc il commandait vraiment des troupes. Mais il n'est pas connu comme étant un grand meneur d'hommes. Il n'avait pas le charisme de Napoléon, par exemple. Hein, c'est clair, il faut le dire. Hein. Donc, il n'a pas été un commandant en chef, il n'a pas commandé de grandes armées, il n'a pas eu de grandes responsabilités de commandement. Mais il était souvent un conseiller et on savait qu'il était comme ça dans l'armée prussienne. C'est d'ailleurs parce qu'on savait qu'il avait ces qualités-là qu'on allait lui parler pour qu'il conseille parfois, ça a été le cas à Wavre par exemple, pour qu'il conseille le commandant du 3e corps prussien, qui est un Saxon, Tillmann, enfin d'origine saxonne, plutôt du genre meneur d'hommes, mais pas tellement intellectuel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, un peu comme Blücher.
Tandis que Clausewitz, lui, il était à côté de lui et il lui donnait son avis, parce que Tillmann avait justement l'intelligence de remarquer que Clausewitz pouvait lui être très utile. Donc, c'est souvent, ça a été le cas à Waffe, c'est à lui que Grolemann, qui était le numéro 2 de l'état-major prussien après Gneisenau, un type très intéressant aussi, Grolemann, hein, comme ces gens-là, ils avaient des lettres. Hein. Donc, Grolemann est allé parler à Clausewitz pour lui dire qu'on confie au 3e corps prussien le soin d'arrêter Grouchy, hein, pour qu'il n'aille pas à Waterloo. Et c'est ce que le 3e corps prussien a fait, alors qu'il était inférieur en nombre, alors que, bon, ça ne présente pas toujours ça, évidemment. Mais...
Fixer Grouchy à Wavre, c'est l'idée de Clausewitz? Parce que c'est décisif
Non,
sur Waterloo.
ce n'est pas son idée à lui tout seul,
Oui.
parce que ça lui a été demandé par Grolman, donc l'état-major de Blücher.
Donc Grolman avait cette idée-là de fixer Grouchy.
Grolman et Gneisenau, et Blücher, ben, il avait le panache pour enlever les troupes et les conduire au combat, mais ce n'était pas non plus un intellectuel au sens strict du terme. Hein, donc tandis que Gneisenau, Grolman, Clausewitz, c'était des personnages qui avaient lu beaucoup, qui avaient d'ailleurs été les initiateurs des réformes militaires prussiennes, hein, qui ont permis à la Prusse d'avoir une armée justement performante et nombreuse, hein, parce que la Prusse était un petit pays, il ne faut pas l'oublier. C'est pas encore l'Allemagne.
Le 13e
Hein,
puissance en Europe, 3e armée, mais 13e puissance en Europe, c'est ce que vous expliquez.
oui, c'est ça. On dit d'ailleurs parfois par ironie que la Prusse n'était pas un État qui avait une armée, mais une armée qui avait un
Avait un
État.
état, oui, en effet. Mais vous le soulignez, il est mort trop jeune pour arriver aux plus hautes responsabilités. Sans doute les
Oui,
aurait-il
oui.
atteintes s'il n'était pas mort
Oui, voilà,
à peine 40
c'est
ans.
probable.
Oui.
C'est probable, oui, c'est probable. Mais évidemment, il n'y avait plus non plus les grandes guerres qu'il y avait à l'époque napoléonienne. Donc,
Mais il est impressionnant quand même par moment, vous le décrivez, dans les choix qu'il fait. Ce sont des choix personnels, courageux, parce que
Oui.
lorsque Napoléon rentre en guerre contre la Russie, il prend cette décision très personnelle de quitter
Oui.
l'armée prussienne et de s'engager dans l'armée russe.
Oui,
Et ce n'est que très tardivement
oui,
qu'il pourra rejoindre l'armée prussienne, comme si les princes lui en voulaient.
oui, oui. Ben
Alors qu'il aura un rôle,
droit.
là encore, décisif de conseiller, la fameuse clause
Oui.
de au traité, je ne sais pas comment appeler ça, de
Oui.
Terhoeven, hein,
Oui.
où York, le général prussien, finalement déclare sa neutralité alors qu'il est dans la
Oui,
grande armée. Et c'est
oui.
Clausewitz qui est à l'origine aussi de cette décision.
En grande partie, oui. Et c'est vrai qu'il était. Il a été longtemps mal considéré par le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, qui avait évidemment la responsabilité politique de diriger la Prusse, et qui à un moment donné a été bien obligé d'être l'allié de Napoléon parce que ben, il n'avait pas les moyens de faire autrement. Mais Clausewitz, avec un certain nombre d'autres officiers, bon, ils n'étaient pas très très nombreux, mais enfin un certain nombre d'officiers. Particulièrement patriote, a préféré s'engager dans l'armée russe parce que les Russes s'opposaient à Napoléon, tandis que le roi de Prusse ne voulait pas. Il était l'allié de Napoléon, l'allié un peu forcé, évidemment, contre les Russes. Alors le roi lui en a toujours voulu parce que c'est vrai que bon, c'est une désobéissance quand même très importante de la part d'un officier de changer de camp comme ça, de quitter son uniforme. Et donc il n'a été en fait réintégré dans l'armée prussienne qu'en 1815, quand Napoléon est revenu de l'île d'Elbe et que les puissances européennes n'ont plus voulu de Napoléon. Et bon, c'est la campagne de Belgique, Waterloo. Donc c'est à ce moment-là qu'il a retrouvé un uniforme prussien. Jusque-là, il avait un uniforme russe. Donc même en 1814, il était toujours à la tête de la Légion russo-allemande, comme on l'appelait. Elle était composée d'Allemands, pas uniquement des Prussiens d'ailleurs, mais au service de la Russie. Ils parlaient tous allemand, évidemment, mais bon, il faut savoir aussi que les Russes.
Qu'ils ne comprenaient pas le russe en plus, ils battaient avec le russe,
Ah
ils ne
non, ils ne
comprenaient
comprenaient
pas
pas
le
le
russe.
russe. Ils ne comprenaient pas le russe. Et
Ouais.
les Russes, à un niveau supérieur, j'ai vu ça dans les archives, hein, parce que c'est quand même frappant. Ou bien ils se parlent en français, ou bien ils se parlent en allemand. C'est-à-dire, enfin, il y a des Allemands qui servent dans l'armée russe. Mais toutes les cours d'Europe, évidemment, parlaient français. À Waterloo, Wellington et Blücher correspondaient en français. Hein. On l'oublie souvent, mais c'était la langue, un de toutes les langues
Oui.
cultivées.
Tout comme on commandait en latin pendant les guerres de l'Antiquité, eh bien, les
Oui.
commandements étaient en français. Merci en tout cas pour notre leçon d'avoir résumé les raisons principales pour lesquelles il faut s'intéresser, en effet, non seulement aux écrits de Clausewitz, avec ses fameux écrits, souvent notre connaissance s'arrête d'ailleurs au titre, hein, de la guerre, et on ne va pas plus loin. Et aussi, l'un des mérites, hein, de votre livre, hein, c'est d'aborder effectivement la pensée clausewitzienne, hein, c'est en tout cas ses caractéristiques principales. Ce qui est aussi très intéressant, je trouve, dans votre livre, ce sont les analyses de Clausewitz sur Napoléon. sur la tactique napoléonienne. Elles sont faites quasiment à chaud. C'est passionnant, c'est passionnant. Vous allez certainement nous en parler, nous dire ce que vous en pensez. Et puis, je voulais aussi vous poser cette question, justement, ce qui fait la modernité et l'universalité de l'analyse de Clausewitz sur la guerre. Est-ce que c'est ce que vous avez précisé au début de cet entretien, c'est-à-dire que Clausewitz met le doigt sur les phénomènes humains éternels de la guerre?
Oui,
je Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours aussi actuel?
Je le crois, oui. Évidemment, c'est complexe, hein. Il y a plusieurs niveaux d'analyse. Bon, et d'ailleurs, quand il définit une guerre, sa fameuse définition trinitaire, comme on l'appelle, puisqu'il y a trois éléments qui interviennent. Il y a l'élément de la passion populaire, des sentiments de haine de l'adversaire, etc. C'est le niveau peuple, les nations, les peuples. Il y a le niveau du général commandant en chef de chaque côté, qui lui doit trancher dans l'incertitude, prendre des décisions. Diriger une armée, c'est souvent ça, c'est prendre des décisions dans un contexte d'incertitude. Et puis alors finalement, et ça c'est toujours actuel, il y a la dimension politique, où la guerre, là, appartient vraiment à la décision qui relève d'un jugement rationnel. Et il insiste là-dessus. On ne mène pas une guerre pour n'importe quoi. Il faut une décision politique réfléchie. Il faut une rationalité. Et ça permet de comprendre toutes les situations, y compris ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple. Hein. Donc, ça s'applique à toutes les époques.
Quand vous parlez de cette rationalité politique concernant la guerre, c'est-à-dire c'est l'adaptation de la décision de la guerre aux objectifs de la stratégie, c'est ça, en fait. Il y a cette...
Oui, la stratégie étant à l'interface du politique et du militaire, puisque aujourd'hui, on la comprend comme ça. Ce n'est plus uniquement la façon de diriger une armée en campagne. Ça, c'était à l'époque de Napoléon, on pensait ça. Le mot stratégie, à cette époque-là, c'était les directions opérationnelles des armées. Aujourd'hui, on dit plutôt l'art opérationnel ou la stratégie opérationnelle.
Qui Mais correspond à la tactique, pardonnez-moi. C'est ça, c'est la tactique, en fait.
La tactique, c'est encore plus bas, c'est le niveau du champ de bataille, d'affrontement, la façon de disposer les troupes, la façon de se retrancher, de s'abriter, de tirer, c'est ça. Tandis que les opérations, c'est les mouvements qui se déroulent d'ailleurs souvent en dehors du champ visionnel de l'ennemi. Donc les opérations, les mouvements des troupes dans une campagne... Ça, c'est les opérations, mais à l'époque de Clausewitz et de Napoléon, ça s'est appelé la stratégie.
À vous lire, pardonnez-moi, Bruno Colson, à vous lire, peut-être ai-je tort, on a l'impression que Clausewitz attache plus d'importance justement au combat proprement dit, donc la tactique, qu'à la stratégie.
Oui, parce que il a vraiment été persuadé qu'on avait oublié dans beaucoup d'armées européennes les réalités du combat. Et que les Français venaient en quelque sorte obliger les autres pays à comprendre ce que c'était et à mener des combats. Napoléon recherchait la bataille décisive. Hein, donc, c'est comme ça qu'il a été évidemment auréolé de toute sa gloire dans toute l'Europe. C'est parce qu'il ne refusait pas le combat. Au contraire, il le recherchait. Or, on l'a souvent oublié, mais on croyait avant Napoléon qu'on pouvait gagner la guerre sans faire couler trop de sang, sans livrer beaucoup de batailles. Et c'est ça que Clausewitz a eu vraiment en tête, c'est qu'il fallait, il fallait vraiment ne pas avoir peur de livrer bataille, de mener un combat contre les Français, parce que c'était comme ça qu'ils agissaient. Et donc, si on laissait faire, évidemment, c'est ce qui s'est passé avec Napoléon, toute l'Europe a été conquise par les armées françaises, et la Prusse, qui était un petit État, mais qui avait quand même sa fierté, a été réduite à rien du tout, et donc ils se sont dit, bon, on s'est fait complètement humilier, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre honneur, c'est ça, hein, et notre indépendance, hein, parce que la Prusse était sous la botte de Napoléon.
Et vous soulignez à plusieurs reprises, Bruno Colson, dans votre biographie de Clausewitz, intitulée sobrement Clausewitz chez Tempus Perrin, vous soulignez que Clausewitz... insiste sur justement l'énergie révolutionnaire des soldats français et la brutalité dans la manière qu'ils mènent la guerre. Ça, c'est particulier, c'est la Révolution française, ça, cette énergie et cette brutalité.
C'est ce que disent beaucoup d'historiens, oui.
Oui.
Ça peut paraître étonnant et c'est un aspect de cette époque qu'on a peut-être un peu oublié. Mais la Révolution française, qu'est-ce que c'est? Ben, les Français le savent, c'est le peuple quand même qui fait irruption sur le champ politique, même si on peut discuter évidemment de la façon dont le peuple a été utilisé par certains leaders, etc. Mais il y a une irruption du peuple et c'est ça qui a vraiment frappé. Des personnes comme Clausewitz et d'autres, hein, et pas le seul évidemment, ils se sont rendus compte que le peuple intervenait dans les affaires politiques, alors que je suis là, bah, il n'avait rien à dire. Et alors, dans le domaine militaire, là aussi, l'énergie du peuple était en quelque sorte utilisée par le pouvoir, et notamment par Napoléon, qui était l'héritier de la Révolution, hein, ça, il faut en être bien conscient, et c'était dit partout en Europe. Napoléon a utiliser cette puissance nouvelle, cette énergie du peuple qui lui donnait d'abord des armées nombreuses et une volonté de combattre qui n'existait pas avant. Parce que la guerre était présentée comme évidemment un enjeu national majeur, il fallait absolument battre l'ennemi, d'abord défendre la révolution, hein, d'abord il y a eu une phase défensive, puis une phase offensive. Mais bon, enfin là, on peut discuter, les historiens ne sont pas toujours d'accord, mais ce qui est intéressant avec Clausewitz, c'est qu'on a au fond un point de vue non français sur cette période, un point de vue allemand, qui n'est pas toujours tellement connu, parce
Oui.
que, bon, l'Allemagne, évidemment, elle fera parler d'elle après, mais... Sous Napoléon, en quelque sorte, même s'il n'y avait pas d'unité de l'Allemagne, et Clausewitz n'y songeait pas, il faut insister là-dessus, il n'était pas du tout partisan d'une unité allemande, hein. Même s'il y avait une communauté de langage, de littérature, etc., non, il n'était pas du tout pour l'unité de l'Allemagne. Mais il y a eu une prise de conscience quand même, non seulement en Prusse, mais dans d'autres États allemands, bah que si... On ne réagissait pas, ben les Français allaient tout dominer en Europe et que Napoléon allait faire ce qu'il voulait. Il l'a fait un certain temps. Et donc Clausewitz a été un de ceux qui ont vraiment pris conscience de ça. Il fallait en quelque sorte faire comme les Français, changer la façon de faire la guerre, parce que l'armée prussienne avait acquis, disons, une vision de la guerre assez policée, avec, on ne touchait pas du tout aux populations. Par exemple, on emmenait tout son ravitaillement avec soi. On ne s'approvisionnait pas chez les villageois quand on passait quelque part. Non, on avait tout avec soi. Et on croyait aussi qu'on pouvait, en quelque sorte, faire une sorte de jeu d'échecs, des manœuvres savantes, etc., pour acculer l'adversaire à reculer, à abandonner le champ de bataille, etc. Et lui, il a été frappé, Clausewitz, comme d'autres, par le fait que les Français, à certains moments, n'hésitaient pas à aller à l'assaut. C'était le cas à Auerstedt, puisqu'il était là. Face au troisième corps de Davout. Et c'est vrai que Davout a compris, parce que c'était quelqu'un d'intelligent aussi, il a compris qu'il devait absolument attaquer, même s'il était inférieur en nombre. Et c'est comme ça qu'il a gagné la bataille de Hochstedt contre les Prussiens. Et il a attaqué alors que on aurait pu croire qu'il n'oserait pas le faire. Il y avait là une sorte de cran, si vous voulez, que Clausewitz et d'autres officiers prussiens. Ne comprenait pas, enfin, il croyait que c'était pas possible, quoi. Et que c'était pas possible d'avoir des adversaires pareils qui ne lâchaient pas le morceau et qui continuaient d'attaquer. Et donc, il a, en quelque sorte, Clausewitz, voulu que les Prussiens se rendent compte de ça et qu'ils transforment aussi leur façon de faire la guerre, qu'ils fassent appel au sentiment national, hein, puisque c'est quand même un ressort très important dans une guerre. Et donc, il a été partisan d'un armement du peuple, hein, la Landwehr, par exemple, c'est des régiments levés dans la population. La Prusse a effectivement, en grande partie, d'ailleurs, suivi ses conseils, mais c'était aussi ceux des réformateurs, comme on les appelait. Clausewitz n'était pas tout seul, il faisait partie d'un groupe, hein, de réflexion
Oui.
sur les réformes de l'armée prussienne. Et celui qui dirigeait ce groupe, c'était Scharnhorst, hein, c'était le grand maître à penser des réformes militaires prussiennes. Et Scharnhorst était en quelque sorte le mentor de Clausewitz. Il a bien vu que c'était un personnage qui avait beaucoup de potentiel, parce que évidemment, Charnoz était plus âgé, beaucoup plus âgé que Clausewitz. Et les personnes plus âgées ont toujours le souci, enfin, souvent, d'avoir un successeur, d'avoir quelqu'un qui prolonge les idées. Hein. Donc, il a été l'élève de Scharnhorst. Et Gneisenau aussi a joué un rôle important. Mais il n'était pas tout à fait comme Clausewitz, à certains égards.
Oui, vous insistez d'ailleurs l'importance dans les sources que vous avez utilisées, la correspondance de Clausewitz, notamment avec Gneisenau. Ce
Oui.
qui frappe aussi, c'est que Clausewitz était proche, hein, de ces deux grands chefs qui étaient
Oui.
Gneisenau et Scharnhorst, hein, qui devaient certainement l'apprécier tout particulièrement, ce qui ajoute encore à la
Oui,
valeur,
oui,
hein,
oui.
bien sûr, de ce personnage. Une dernière question avant que nous rentrions, si vous voulez bien, dans la vie de Clausewitz, dans cette biographie telle que vous nous la présentez, hein, aux éditions Tempus Perrin, Monocolson. Une dernière question, justement, sur... vous dites que les guerres révolutionnaires menées par la France, les guerres napoléoniennes, hein, héritières, bien sûr, de ces conquêtes révolutionnaires, se caractérise par cette énergie, cet esprit guerrier qui est nouveau, qui est nouveau en tout cas à cette époque. Est-ce que Clausewitz en donne les raisons? Est-ce que c'est dû en effet au peuple qui surgit dans la guerre en quelque sorte, à travers la conscription?
Oui.
Ou est-ce que c'est dû justement, parce que quand on regarde les armées napoléoniennes et leur chef quand même exceptionnel, hein, vous parliez tout à l'heure de Davout, tous sont issus des soldats de la Révolution. Pour la plupart, il y a quelques-uns qui sont issus des officiers de l'armée royale, mais pour beaucoup, hein, ceux qui vont frapper quand même, ils sont issus des soldats de la Révolution. Quelle analyse fait Clausewitz de cet esprit guerrier typique des guerres révolutionnaires françaises?
Mais justement, ça l'a frappé, ça l'a frappé. Il a constaté, au fond, un écart énorme entre la façon dont les Français menaient la guerre et celle qu'on lui avait enseignée dans l'armée prussienne. D'une certaine manière, c'est, comme il l'a dit, c'est l'irruption du peuple dans la guerre et ça a comme conséquence, notamment, d'accroître considérablement les effectifs. Et ça se constate évidemment. Et avec Napoléon, on a une hausse des effectifs dans les batailles. Même sous la Révolution, au début, les effectifs n'étaient pas encore si importants. Et puis, vous savez, il y a eu la levée en masse, et puis il y a eu la conscription. Et Napoléon a prolongé la conscription, il a continué le système, parce qu'il lui donnait évidemment des armées nombreuses. Il faut savoir aussi que la France, à l'époque, était parfois appelée la Chine de l'Europe, parce qu'elle était très peuplée, elle avait une population jeune, beaucoup plus jeune que d'autres pays. Et donc, ça explique en partie aussi hein, les effectifs des armées françaises.
Oui.
Hein, comment la France a-t-elle pu tenir tête à toute l'Europe? Elle avait une forte natalité, et il avait une démographie qui permettait d'enrôler de nombreux jeunes. Quand vous voyez les chiffres des populations à cette époque-là, la France était aussi peuplée que la Russie. Mais la Russie était un pays beaucoup moins bien organisé que la France. Hein. Donc les effectifs comptaient beaucoup. D'ailleurs, c'est un facteur qu'on a parfois négligé dans les études historiques. Certains mettent le doigt là-dessus aujourd'hui. C'est que avoir une armée nombreuse, il n'y a rien à faire. Ça vous permet quand même de faire moins attention aux pertes et donc d'engager les batailles plus facilement. Les Français ont été les premiers à avoir des armées nombreuses grâce à la Révolution et la conscription en particulier. Et
Mais
ça, c'était
bon, de Colson, sur l'esprit guerrier que souligne
Oui,
Clausewitz, on
là,
comprend
c'est.
sur les effectifs, hein, l'effet de la révolution, la conscription, la France, pays de forte natalité, de population importante à l'époque, on comprend la conséquence, bien sûr, sur les effectifs, mais l'esprit guerrier, c'est ce moral dont Clausewitz souligne l'importance. À quoi est-il dû dans les troupes révolutionnaires ou dans les troupes de l'Empire?
Clausewitz parle aussi du génie guerrier. C'est d'ailleurs un de
Oui.
ses titres du chapitre. Alors, évidemment, avec l'âge qu'il avait, il n'a pas beaucoup combattu la Révolution, mais il était trop jeune, hein, puisqu'il est né en 1780. Mais par contre, c'est évidemment Napoléon qui l'a frappé.
Oui.
Et c'est le génie guerrier, c'est lui, c'est Napoléon,
Oui.
évidemment. Donc c'est la référence pour lui, et pas que pour lui d'ailleurs, mais il trouve que Napoléon est un chef de guerre extraordinaire, il ne s'en cache pas, alors que c'est son adversaire. Il y a d'ailleurs chez Clausewitz, c'est ça qui est intéressant quand on le lit, et on a beaucoup d'écrits, non seulement ses livres, mais aussi ses lettres. Hein,
Oui, vous
ça
soulignez là sa
révèle
correspondance, oui.
beaucoup. Et je me demande d'ailleurs, parce que bon, j'ai été amené à écrire la biographie de Clausewitz, je ne crois pas que l'on ait autant de lettres pour des personnages de cette époque. Soit qu'ils en aient moins écrit, ce qui est peut-être le cas, soit qu'on en ait moins conservé. Or là, bon, Clausewitz, c'était un Prussien, vous savez ce qu'il est advenu de l'Allemagne en 1944-45. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ont disparu.
Oui.
Mais malgré ça, on a quand même pas mal de lettres. Alors ça m'amène un peu à vous parler des sources. Je sais bien que vous avez remarqué ça, mais pour tout ce qui est prussien, il faut savoir évidemment qu'il y a beaucoup moins d'archives que
Oui,
pour la France, par
oui.
exemple. Pourquoi? Parce que dans l'Allemagne, en 1945, il y avait encore une différence entre les archives prussiennes, les archives bavaroises, les archives saxonnes, etc. Et les archives prussiennes, ben, elles étaient à Potsdam, près de Berlin.
Ouais, donc elles ont été entièrement détruites, oui.
Alors, elles ont été entièrement détruites, mais attention, parce que
Oui.
il est possible que les soviétiques les aient prises.
Les ont emmenés, ah oui.
Oui,
Mais on ne le
mais
sait
on ne
pas.
sait pas. On ne sait pas. C'est assez curieux. Mais on n'est pas tout à fait sûr, mais la plupart des spécialistes pensent que enfin, les Russes aujourd'hui ont encore pas mal d'archives prussiennes chez eux. Mais évidemment, on ne sait pas les consulter.
Oui.
On ne sait pas les consulter facilement.
Ils ne
Hein.
nous ont pas mis à disposition du public
Non, 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 non.
comme bien d'autres archives.
Oui.
Bruno Golson, donc je vous propose maintenant, après cette présentation de la vie et l'intérêt qu'elle présente de Clausewitz et aussi pourquoi il est toujours intéressant de lire ses œuvres, eh bien je vous propose que nous rentrons tout simplement dans sa vie par le début, et vous l'avez dit, il est né en 1780, il est un peu plus jeune, il a 11 ans de moins que ce Napoléon, qui sera donc son adversaire. Vous avez précisé concernant Napoléon qu'il admire le génie guerrier de Napoléon, mais il sait se montrer critique. Et c'est aussi l'un des intérêts de cette
Oui.
biographie que vous écrivez, c'est que vous exprimez les quelques critiques de Clausewitz sur la manière dont Napoléon mène la guerre, notamment pendant la campagne de Russie. Donc je vous propose de rentrer tout simplement dans sa vie, dans sa biographie, si vous voulez bien, Bruno Colson, en commençant par le début, par sa jeunesse.
Oui, et donc il est dans une famille nombreuse, comme on dirait aujourd'hui. Son père était fonctionnaire. Il a été officier à la fin de la guerre de 7 ans, parce que le roi de Prusse, Frédéric II, avait besoin d'officiers. Mais il avait quand même un traitement régulier. Donc, je suis allé voir la maison natale de Clausewitz, à Bourg, près de Magdebourg. Bon, c'est une maison relativement cossu pour l'époque, quoi. C'est pas une chaumière, hein. C'est une maison quand même en dur, donc c'est déjà une différence, hein, parce qu'à cette époque-là, il y avait évidemment un grand fossé entre les riches et les pauvres, mais il n'est pas noble, hein. Donc le von n'a été ajouté qu'après.
Ah oui.
La noblesse de la famille n'a été reconnue qu'en 1827 de façon vraiment formelle et définitive, mais le père de Karl von Clausewitz, ayant été officier, considérait qu'il avait donc le droit d'utiliser la particule. Et c'est vrai que tous les officiers étaient évidemment des nobles. Bon. Donc, Clausewitz était un milieu relativement simple, mais qui servait la Prusse, qui servait l'État, le royaume de Prusse. Alors, bon, il a servi comme jeune cadet, vers 12 ans déjà, il était
Et c'est
aux
incroyable, il
alentours de
s'engage très
12.
jeune. Hein. C'est
Oui,
sa vocation, l'armée. C'est une véritable vocation.
c'est une vocation. Bah, c'était aussi un moyen d'ascension sociale très important, hein, à cette époque-là, dans la Prusse post-frédéricienne, on pourrait l'appeler. C'était un moyen d'ascension sociale. Donc les frères de Clausewitz ont aussi choisi la carrière des armes. Et lui, il a accompagné, alors qu'il était qu'adolescent, il ne se battait pas évidemment, mais il a accompagné une armée prussienne dans la vallée du Rhin en 1793. Donc il a vu la guerre pour la première fois à ce moment-là.
Et vous
Et
écrivez d'ailleurs, pardonnez-moi Bruno Colson, vous
oui.
écrivez dans cette biographie, à la page 32, dès l'âge de 13 ans, il se rend compte de
Ouais.
l'importance du moral à la guerre.
Ouais, c'est
À
ça.
13 ans.
Ouais, ben
C'est.
il voit ce qui se passe autour de lui, même il n'agit pas, hein, mais ça l'a frappé. C'est quelqu'un qui avait une grande sensibilité, Clausewitz. Hein. Il faut pas oublier que bon, s'il a perçu beaucoup de choses, c'est qu'il avait l'esprit quand même très ouvert. Il lisait beaucoup. Quand on fait le bilan de sa vie, on se rend compte que c'est quand même quelqu'un qui était de sentiments assez délicats. On le voit dans ses relations avec son épouse. Il était aussi apprécié par beaucoup de dames, en
Ah
quelque sorte, une sorte de chérie de ces dames, mais
oui.
parce que c'était un personnage qui savait parler de façon paisible, mais en disant des choses vraies. Et ça frappait ses contemporains. Mais donc, sa sensibilité a fait qu'il s'est rendu compte de beaucoup de choses que d'autres ne voyaient pas, parce qu'ils étaient dans l'action, et donc, bon, du moment qu'ils donnaient des coups, c'est comme ça, hein, la guerre, c'est évidemment une réalité qui a beaucoup de brutalité. Mais donc, il s'est rendu compte de beaucoup d'aspects, et puis après, il faut savoir que la Prusse est restée longtemps en paix avec la France, hein, après le traité de Bâle en 1795. La Prusse n'a plus repris les armes contre la France qu'en 1806. Donc, c'est une longue période de paix, et c'est la période où Clausewitz a vraiment parachevé sa formation intellectuelle, d'abord au sein du régiment auquel il appartenait, donc c'est assez curieux, mais il y avait des régiments comme ça où il y avait une bibliothèque très bien fournie. Et il a vraiment eu de la chance, en quelque sorte, de tomber peut-être dans un régiment où le colonel était particulièrement lettré. Mais la bibliothèque de Neuruppin, c'est une petite ville dans le nord de l'Allemagne, près de la mer Baltique, où son régiment était en garnison, eh bien, il y avait là une bibliothèque extrêmement riche. Et en plus de ça, le colonel encourageait les jeunes candidats officiers à lire. Et ça, c'est un phénomène qui m'a frappé, parce que ça ne représente pas toujours ça pour cette époque, qui est quand même assez éloignée. Mais l'Allemagne de la fin du XVIIIe siècle, c'était au fond une période où il y a des grands écrivains. Bon, on en connaît certains, hein. Bon, Kant, Goethe, bon, ce sont des gens qui ont vécu à cette époque-là. Mais alors, il y avait aussi beaucoup de revues militaires, par exemple. Et on publiait beaucoup. Et ça, c'est une grande différence, par exemple, avec l'Autriche. Parce que l'Autriche des Habsbourg avait une armée beaucoup plus nombreuse que l'armée prussienne. Mais en Autriche, on n'encourageait pas du tout les officiers à écrire. Au contraire, on les dissuadait plutôt d'écrire. Parce que c'était mal vu, la police surveillait beaucoup. Et donc beaucoup d'officiers écrivaient de façon anonyme dans l'armée autrichienne. Et si vous regardez la littérature, ben, il n'y a pas grand-chose par rapport aux Prussiens et par rapport aussi à d'autres États allemands, hein, puisque l'Allemagne est morcelée. Il y avait des revues militaires très nombreuses en Allemagne qui circulaient d'un État à l'autre, alors que dans l'Empire des Habsbourg, bon, évidemment, il y avait plusieurs nations, mais ils ne parlaient pas tous allemand, hein, mais l'activité intellectuelle n'était pas du tout encouragée. Bon, donc, Clausewitz a parachevé sa formation. Il est alors aussi entré à l'Institut pour jeunes officiers de Berlin en 1801, si je me souviens bien, un institut fondé par Scharnhorst, qui était au départ un hanovrien et puis qui est entré dans l'armée prussienne, et qui était vraiment quelqu'un qui réfléchissait beaucoup aussi. Scharnhorst a beaucoup compté dans la vie de Clausewitz. Hein. D'ailleurs, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, on a réédité la correspondance de Scharnhorst. Hein, vous savez, comme les éditions Fayard ont publié la correspondance de Napoléon, il y a un peu moins de volume pour Scharnhorst quand même que pour
Oui,
Napoléon.
c'est imposant pour Napoléon, oui.
Oui, c'est très important. Mais il y a quand même 8 volumes de correspondance pour Scharnhorst. J'ai Louis-Thierry ici chez moi. Mais on voit que c'est quelqu'un qui réfléchissait vraiment à l'art de la guerre, qui avait beaucoup de culture, qui observait aussi très bien ce que faisaient ses adversaires. Et donc, Scharnhorst a compris que Clausewitz était un jeune homme avec un haut potentiel. Et donc, effectivement, dans cet institut pour jeunes officiers, Clausewitz a été particulièrement brillant. Il est sorti premier de sa classe. Hein.
Ah oui, en effet.
Et il y avait aussi des groupes de discussion où on présentait des exposés, on les commentait. Et ça montre qu'il y avait vraiment une réflexion sur l'art de la guerre qui était très, très encouragée en Prusse, surtout grâce à Scharnhorst. Hein. Il suffit pas d'un personnage pour enclencher un phénomène. Mais donc, Clausewitz a vraiment vécu dans un milieu militaire très cultivé. Et ça, c'est frappant parce que je ne sais pas si on trouve vraiment l'équivalent ailleurs. Il y a eu ça dans l'armée française parce que il y a eu une réflexion évidemment avant la Révolution. Puis avec la Révolution, bon, tout est devenu un peu plus désordonné. Mais il y avait un fond, disons, hein, dont Napoléon a bénéficié d'ailleurs. Mais il n'y avait pas autant de revues militaires, par exemple, hein, là, qu'en Allemagne, et en Prusse en particulier. Donc il y avait vraiment un milieu intéressant pour Clausewitz. Et alors, ce qui est aussi une découverte que j'ai faite, c'est que, tout compte fait, il n'était pas tout à fait étranger aux autres. Il avait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, qui étaient aussi des personnages qui réfléchissaient, qui disaient, c'est un milieu intellectuel assez intéressant finalement, pas uniquement un groupe de gens qui aimaient faire la guerre et faire de l'escrime, quoi. C'était plus que ça. Et pour cette époque-là, c'est assez frappant. Donc il a commencé aussi à écrire, parce que les écrits étaient encouragés, hein, on les publiait, il y avait... J'ai vu ça aussi pour mon livre, des mémoires, d'Ankwürdigkeit, comme on dit en allemand, des mémoires des sujets présentés lors des réunions de la Militärische Gesellschaft, hein, donc la société militaire qui avait été organisée par Scharnhorst à Berlin. Donc il a grandi dans un milieu favorable. Il n'a pas trouvé tout seul de sa tête
Oui.
ce qu'il a écrit. Ça, c'est frappant aussi. Il est vraiment issu d'une armée où il y avait une réflexion réelle menée par des généraux plus âgés comme Scharnhorst et puis par des plus jeunes comme Clausewitz.
Vous soulignez d'ailleurs que c'est dans cette période 1802-1805 que datent ses premiers écrits stratégiques, écrits
Oui, tout à
stratégiques qui
fait.
révèlent déjà son rejet des règles abstraites. Et fixe l'attention portée à l'incertitude dans la guerre et à la psychologie du soldat. Que dit-il de la psychologie du soldat? En l'occurrence, c'est frappant parce que il semble rejoindre un petit peu les écrits d'un autre chef qui a écrit, cet Ardan Dupic, qui a attaché aussi beaucoup d'importance au moral du soldat.
C'est vrai, c'est vrai. Mais
C'est
justement,
quoi
Clausewitz.
justement la psychologie du soldat pour Clausewitz?
Mais comme il le dit dans son œuvre majeure, Vom Krieg, de la guerre, à la guerre, il y a beaucoup de dangers. On craint le danger, tout le monde craint le danger.
Oui.
Il dit des choses comme ça, qui sont tout simplement issues de son observation de la réalité, bien sûr. Mais donc, il ne faut pas se le cacher. Et il est au fond un militaire déjà à son époque, dit les choses franchement et parle de ce que le soldat doit penser quand il est dans une situation de combat. Il a peur, évidemment, c'est normal. Donc, il ne rejette pas ça au nom d'une bravoure, si vous voulez, exaltée, bien d'un refus de voir la réalité. Non, lui, il voit ce qui se passe vraiment et il insiste là-dessus. Il considère que il faut pas des principes abstraits. Il est un adversaire des règles absolues à la guerre. Il faut s'adapter aux circonstances. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'idées directrices, évidemment, mais il rejette ce qu'on appelle à l'époque les principes de la guerre, et que promeut par exemple son grand rival qui est Jomini.
Oui.
Il considère Jomini qu'il y a des principes éternels à un certain niveau. On peut trouver qu'il a raison, par exemple. Il a étudié les manœuvres napoléoniennes, Jomini, alors il donne en quelque sorte des moyens de faire la même chose, des recettes de victoire. Il faut envelopper l'ennemi par un mouvement tournant, ou bien il faut le séparer un d'eux, la manœuvre sur lignes intérieures, comme il dit, bon, séparer l'armée de l'adversaire. Clausewitz, il considère que la guerre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ça qui le distingue de Jomini et de tout un courant, d'ailleurs, qui insiste sur l'importance des principes de la guerre, parce que les principes de la guerre, on en parle depuis l'Antiquité. Donc, lui, Clausewitz, il considère que la guerre est d'abord un drame, et c'est quelque chose d'épouvantable. Et finalement, je me suis rendu compte aussi que c'était finalement quelqu'un qui aurait pu être un pacifiste. Parce qu'il a réellement un souci de l'être humain dans la guerre. Et ça, on ne le voit pas dans ses premiers écrits, parce qu'il est très patriote, et donc il réagit contre la façon de mener la guerre de Napoléon. Il faut absolument que la Prusse ne se laisse pas faire, etc., qu'elle se redresse. Mais quand les Français sont finalement battus, après Waterloo, Clausewitz se montre extrêmement compréhensif et humain vis-à-vis des Français. Et ça le différencie d'un Gneisenau, par exemple. Il faut pas courber la tête du vaincu de façon exagérée. Vous savez qu'il s'est opposé à la destruction du pont d'Iéna à Paris, hein, parce que Blücher et Gneisenau voulaient le faire sauter. Ils l'ont pas fait.
Ah oui, ils ont
Clausewitz
écouté.
trouvait ça.
C'est incroyable cette anecdote. Ah
Clausewitz
oui.
trouvait que c'était vraiment. Il fallait pas abuser de sa victoire, quoi.
Oui.
Les Français sont battus, bon, très bien, c'est fini, mais. Il faut pas non plus. Mais quelque part, c'est quand même intéressant parce que ça permet de comprendre que faut pas humilier un vaincu parce qu'après, il faut vivre avec lui. Il
Oui.
pense à ça au fond. Hein. Autant il a été contre Napoléon quand Napoléon dominait l'Europe, autant une fois Napoléon tombé, il se montre vraiment généreux avec les Français. Enfin, il trouve qu'il faut pas du tout
Pas les
les
humilier.
humilier.
Il va être assez isolé quand même à penser cela. Effectivement, vous l'écrivez, hein, Bruno Colson, dans votre biographie sur Clausewitz. Hein, Clausewitz, dans la collection Tempus d'édition Perrin, vous soulignez qu'il reproche justement au chef prussien d'être trop dur avec les Français. D'autant qu'il prévoit une autre guerre. Il dit qu'il y aura une autre guerre entre. Il y aura d'autres guerres entre la Prusse et la France. Il doit être très. Il est un cas unique, non, quasiment, de cette époque à dire, il ne faut pas humilier l'adversaire, il ne faut pas exploiter sa victoire brutalement, violemment, etc.
Oui, on peut penser ça. Mais il rejoint aussi des dirigeants politiques comme Metternich, par exemple, qui pensaient un peu ça aussi. Il ne faut pas oublier
Oui.
que la France était présente au Congrès de Vienne. Hein, Talleyrand a représenté la France, donc le vaincu était là. Et donc, même si le Congrès de Vienne a évidemment mis fin à la surpuissance française, à l'hégémonie française, la France est restée, n'a pas été démantelée. Hein. Remarquez que la France est restée la France, alors que certains voulaient démembrer la France. Hein. Certains adversaires de la France voulaient la démembrer. Clausewitz se rendait compte justement qu'il fallait penser à l'après-guerre et que c'est vrai qu'il est assez unique pour son temps, il est assez moderne parce que aujourd'hui, c'est ce que certains disent, il faut justement penser à.
Ouais.
à l'après-guerre. Hein.
Il est d'autant plus unique, si vous me permettez, Bruno Colson, cette remarque évidente, c'est que c'est un officier, c'est un soldat, c'est un chef de guerre. Alors qu'un diplomate comme Metternich pense, effectivement, pense à la diplomatie, pense à l'avenir des relations entre les pays, c'est assez logique. Mais lui, c'est un chef de guerre, et en général, les chefs de guerre victorieux ne sont pas tendres. Hein,
Non.
Et c'est là où il est vraiment remarquable. Je trouve, et vous le soulignez bien dans votre ouvrage. Bruno Colson, nous allons faire, si vous le voulez bien, une petite pause technique, un message de la radio à écouter, suivi d'une pause musicale. Vous avez choisi une symphonie de Beethoven, premier mouvement de la symphonie numéro 3, héroïque. Ce sont des temps héroïques avec des personnes d'une immense envergure que vous nous présentez. Et puis alors, ce que je vous propose, c'est que la vie de Clausewitz est tellement riche, ses écrits sont tellement importants, c'est que nous fassions une deuxième émission, si vous voulez bien, parce qu'il restera à peine une demi-heure pour poursuivre. Ouais. Et si vous êtes d'accord, nous vous recevrons avec plaisir pour une deuxième émission consacrée à une suite. Si cela, bien sûr, ne vous ennuie pas. Alors nous faisons cette petite pause, et suivie de la symphonie numéro 3 héroïque.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en direct dans cette deuxième partie d'émission Bruno Colson, qui est historien, professeur d'université, spécialiste de l'histoire militaire du 19e et du 18e siècle. Clausewitz était à cheval sur ces deux siècles et nous avons le plaisir de recevoir pour cette passionnante biographie Clausewitz aux éditions Perrin dans la collection Tempus. Bruno Colson nous a présenté dans cette première partie de discussion à la fois l'originalité des écrits, en quoi ces écrits étaient quasiment révolutionnaires sur la guerre, mais aussi l'originalité de la vie de Clausewitz, qui est une personnalité particulièrement intéressante, avec des idées novatrices. Par exemple, pour Nicholson, juste avant que nous fassions cette pause musicale, la symphonie héroïque de Beethoven, eh bien, écrit que très vite, hein, lorsqu'il se met à écrire, il a 22-23 ans dans ses premiers écrits, c'est quand même très impressionnant, de précocité. Eh bien, Clausewitz insiste sur le souci dans la guerre, le souci de l'être humain. Et justement, Bruno Colson, la question que je voulais vous poser, l'une des critiques qu'il a de Napoléon sur la campagne de Russie, qui marque profondément Clausewitz, hein, on comprend pourquoi d'ailleurs, eh bien, il dit que Napoléon ne s'est pas assez occupé du soin de ses soldats. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Et alors, dans l'esprit de Clausewitz, qu'est-ce que c'est concrètement d'avoir le souci de l'être humain, sachant que la guerre à l'époque était quelque chose de particulièrement dur?
Je crois qu'il, enfin, d'après ce qu'il a écrit, Clausewitz a été très marqué, on pourrait même dire traumatisé, par les scènes d'horreur qu'il a vues au cours de l'hiver 1812, enfin, avec Napoléon qui quittait Moscou en octobre 1812, et puis que l'hiver est arrivé assez tôt, fin octobre déjà, novembre, la Bérézina, c'est en novembre. Donc, il n'y avait pas grand-chose de prévu, et pourtant Napoléon avait essayé de préparer cette campagne en pensant à toute une série de choses qui devaient accompagner son armée, mais ce n'était pas encore assez, parce que l'hiver russe a surpris les armées de Napoléon. C'est clair qu'il n'y avait pas, de quoi équiper les soldats. Et donc là, sur les bords de la Bérézina, où Clausewitz s'est trouvé avec l'uniforme russe, hein, puisqu'il était à ce moment-là au service de la Russie, il y a là des exclamations, des paroles, enfin, qui sont très, très étonnantes pour quelqu'un de cette époque. Il dit des choses comme « Quand on a vu ce que j'ai vu, on se demande comment c'est possible d'amener ses frères humains à de telles situations d'horreur. » Parce que, bon, c'est vrai que ça a dû être épouvantable, hein, la retraite de Russie, non seulement le froid, mais la faim, le manque de vêtements, la possibilité de se chauffer. Vous savez, dans l'armée de Napoléon, les hommes qui avaient un cheval avaient de la chance parce qu'ils pouvaient manger la viande du cheval et même s'abriter dans le ventre du cheval quand il faisait tellement froid que... Il ne trouvait pas autre chose comme abri. Le cheval était mort, évidemment. Mais je veux dire qu'il y a eu effectivement des scènes absolument épouvantables. On dit même qu'il y a eu du cannibalisme, hein, dans les armées. Alors, je ne sais pas ce que Clausewitz a vu exactement, parce qu'il reste assez général dans sa description, mais il a cette parole où il parle justement de ses frères humains. Il y a une expression semblable à celle-là. Comme si tous les hommes étaient des frères et qu'ils se rendaient compte des misères où la guerre pouvait les amener. Alors ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. On ne voit pas souvent ça, bien qu'il y ait parfois dans les mémoires de l'époque quand même des cris qui sont poussés par des mémorialistes. Hein, mais là, vraiment, pour quelqu'un qui réfléchit sur la guerre, il y a en quelque sorte des paroles qu'on pourrait qualifier de pacifistes aujourd'hui parce que il voit où ça peut conduire l'être humain. Et ça, c'est quand même assez frappant, parce que ça redonne une dimension proche à ces événements qui nous semblent un peu perdus dans les halos de l'imaginaire, de la gloire et des représentations des artistes. Hein. On voit ça comme une épopée, mais il y a eu un côté extrêmement dur, évidemment. Et donc, il s'est rendu compte de ça, et je dirais que ça donne encore plus de poids à ces analyses, parce que il faut pas se cacher la réalité des faits. Hein. C'est sûr qu'il y a eu des souffrances innommables.
Alors nous avons des messages d'auditeurs, Bruno Colchon, je vous les propose. Un auditeur, sur quoi se fondait Clausewitz pour affirmer qu'il y aurait une future guerre avec la France après Waterloo? Et bon, vous l'évoquez à la fin de votre livre. Hein.
Oui. Ben, sur un sentiment qu'il avait en voyant les Français, puisqu'il a quand même séjourné un certain temps en France, notamment à Paris et dans les environs. Il n'a pas oublié que pour l'Europe entière, Paris, c'était évidemment une capitale prestigieuse avec des musées magnifiques, des chefs-d'œuvre artistiques, etc. Donc, son épouse est venue le rejoindre. Hein. Marie est venue rejoindre Clausewitz à Paris.
Il va falloir qu'on parle de Marie von Brühl, hein, l'amour,
Oui,
le grand amour de Clausewitz.
je veux dire, ils ont visité, hein, comme les touristes le font aujourd'hui, parce que Paris était déjà évidemment capitale prestigieuse, une ville qui était assez unique en Europe. Alors, sur quoi se fondait-il exactement? Il s'est fondé sur ce qu'il percevait dans les Français qu'il rencontrait. Je crois que c'est ça, parce qu'il s'est rendu compte que, évidemment, bon, les Français avaient leur fierté et ils n'étaient pas contents non plus de voir les Alliés défiler à Paris. Hein. Il ne faut pas non plus croire que Clausewitz ne se rendait pas compte de ça. La France demeurait une grande puissance, bien sûr. Hein. C'était un des grands pays qui comptait en Europe, même si Napoléon avait été battu. Donc, je crois qu'il n'y a pas plus que ça. C'est les impressions qu'il a eues en fréquentant des Français, en voyant que bah, il exprimait quand même une certaine réticence vis-à-vis des soldats alliés, ce qui est compréhensible, évidemment. Mais donc, je crois qu'il n'y a pas plus que ça. C'est un
Oui.
sentiment qu'il avait en visitant la France.
Un auditeur demande quelle était la position de Clausewitz sur le traité de Vienne.
Il ne s'est pas tellement exprimé là-dessus. Au congrès de Vienne, bah justement, comme je vous le disais tantôt, on n'a pas trop humilié la France. Hein. Il y a quand même quelques rectifications après Waterloo, notamment au profit de la Belgique. Mais sinon, bon, la France n'a pas été. La France s'est assez vite relevée hein, de la défaite de Waterloo et de l'occupation alliée qui a suivi, parce que cette occupation n'a pas été trop longue. Il y a eu un congrès à Aix-la-Chapelle, je crois que c'était en 1817, si je me souviens bien, où les Alliés ont décidé déjà de quitter le territoire français. Donc ça n'a pas été aussi pénible qu'après les Premières et Secondes Guerres mondiales. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui reconnu par les spécialistes de l'histoire diplomatique, c'est qu'au congrès de Vienne, justement, la qualité, je dirais, le mérite des diplomates, c'est de n'avoir pas humilié le vaincu, de ne pas avoir cherché à trop l'abaisser. Certains le souhaitaient, mais ce n'est pas leur opinion qui a prévalu. Donc, il ne s'est pas tellement exprimé sur le congrès de Vienne en tant que tel. Mais, comme je vous l'ai dit, là, on a des témoignages dans ses lettres. Il voulait pas. Il répugnait à trop abaisser les Français vaincus. Et en cela, il rejoint l'esprit du Congrès de Vienne, l'esprit qui a prévalu au Congrès de Vienne.
Je vous propose de revenir à la période que nous avions laissée de la vie de Clausewitz, c'est-à-dire cette période 1802-1806, hein, où il est formé à l'école d'officiers et il participe à des groupes de réflexion et il commence à écrire. Il étudie par exemple les campagnes du roi Gustave Adolphe de Suède et rédige cela en 1802. Et vous écrivez à cet égard, Bandeau Colson, que la méthode de Clausewitz est déjà posée à ce moment-là. C'est quoi la méthode de Clausewitz?
C'est une méthode qui expose les faits, mais trop longuement et pas dans trop de détails, parce qu'il recherche plus l'esprit qui a prévalu à cette époque-là que le déroulement des actions et le détail des opérations. Il essaye vraiment de saisir ce que pensaient les grands chefs, ce que pensaient les soldats, mais il se situe surtout au niveau des chefs. Hein. Il faut le savoir, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé dans les états-majors. Il n'a pas tellement commandé de troupes sur le terrain. C'était pas son but, d'ailleurs, de comprendre toujours la mentalité des combattants, des soldats. Mais Son ambition, si on peut l'appeler comme ça, c'était de réfléchir sur la guerre pour que ce soit une réflexion utile non seulement aux généraux, mais aux dirigeants politiques. Il s'est rendu compte, évidemment, des liens entre les deux. Ce qui n'était pas toujours le cas. Hein. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, ça ne se disait pas tellement. Donc, sa méthode, c'est ça, c'est d'essayer de saisir l'esprit des événements, de leur retirer, si vous voulez, de leur contexte particulier, et d'arriver à des considérations d'ordre assez général, puisque bon, c'est ce qui fait l'intérêt de son œuvre, c'est que elle peut s'appliquer finalement dans sa majeure partie, pas tous les chapitres, mais en tout cas les premiers et les derniers de Vom Krieg, de la guerre, ceux-là sont vraiment éternels parce que on les lit toujours, on les étudie toujours.
Alors dans cette partie apprentissage, hein, vous citez Clausewitz dans la page 67 de votre biographie de Colson, c'est vraiment très impressionnant. Je vous lis, hein. Quant
Ouais.
à la tactique supérieure et à la stratégie, elle ne comporte guère de théorèmes et de règles, et repose d'abord sur un jugement très exercé, un mode de
Ouais.
pensée qui ne peut s'acquérir que par la fréquentation de l'histoire.
Ouais.
Là, il est comme Napoléon, parce que vous le soulignez
Ouais,
dans votre ouvrage sur Napoléon de la guerre,
oui.
l'importance que Napoléon donne à l'étude
Ouais,
de l'histoire qui lui aussi la nourrit.
oui,
De
tout
la
à
même
fait.
manière, là, ils sont vraiment dans une pensée équivalente.
Oui. Tout à fait. Et bon, ça a toujours été d'ailleurs une habitude dans les écoles de guerre d'enseigner les campagnes des époques précédentes. Et Clausewitz insiste beaucoup là-dessus. Il faut savoir aussi qu'il a non seulement étudié des campagnes passées, dont celles que vous évoquez, par exemple Gustave Adolphe pendant la guerre de 30 ans, donc ça
Oui.
c'est 18-17e. Mais il a aussi étudié la guerre de Frédéric II, il a étudié Turenne, il a étudié alors les guerres qu'il a connues lui, mais auxquelles il n'a pas nécessairement participé. Par exemple, il a étudié la première campagne d'Italie de Napoléon, il n'était pas là lui, hein. La Prusse était d'ailleurs en paix à ce moment-là. Mais donc, dans ses études de campagne, il essaye de dégager ce qui lui semble le plus important. Et il n'a jamais rien écrit de théorique avant d'avoir étudié des faits historiques précis. Jusqu'à la fin de sa vie, et il est mort évidemment assez jeune, à 51 ans, mais il a toujours veillé à ce que sa réflexion théorique s'alimente en quelque sorte d'une étude précise des guerres qu'il avait connues, mais pas uniquement celles qu'il avait connues en tant que participant, aussi les autres de son époque, où il n'était pas nécessairement présent. Et donc, c'est assez curieux, mais parfois, par exemple pour son étude de la campagne de Russie de 1812, c'est un peu comme si c'était un journal parce qu'il parle de lui, il raconte ce qu'il a fait. Or ça, il ne le fait dans aucun autre travail sur une campagne, par exemple celle de 1815, pourtant il était là, il a pris des décisions à un certain moment, il a donné des conseils importants, il ne parle pas vraiment de lui, il expose les faits. Parce qu'à ce moment-là, il a besoin, en quelque sorte, d'appuyer ses considérations théoriques sur des faits réels qu'il a connus. Et c'est vrai que jusqu'au bout, c'est pour ça d'ailleurs que de la guerre n'est pas vraiment achevée. Vous savez qu'il a pas publié de son vivant. Il considérait que ce n'était pas achevé. Et en quelque sorte, ça ne l'est pas. Mais c'est aussi une des qualités du livre, justement, c'est de laisser le champ libre à la réflexion. Mais il appuyait toujours ses idées sur des faits auxquels il avait participé ou bien qu'il avait étudié.
Alors, je vous lis aussi dans vos commentaires de ces premiers écrits de Clausewitz. Il est presque visionnaire, c'est très impressionnant. Voici ce que vous écrivez. Clausewitz cite Machiavel, qui juge forcément des choses de la guerre, et a cette phrase une prescience étonnante. Si jamais Bonaparte devait venir en Pologne, il lui sera plus facile à vaincre qu'en Italie, et quant à la Russie, j'y tiendrai sa perte pour assurée. C'est incroyable. Vous ne trouvez pas?
Oui, c'est vrai que c'est un passage qu'il a écrit bien avant la campagne de 1812 et Ça montre déjà qu'il avait évidemment une conscience de la difficulté de conquérir la Russie. Bon, c'est toujours vrai, évidemment.
Napoléon ne l'avait pas lu quand il a décidé d'aller
Oui,
en Russie,
mais
mais peut-être l'aurait-il lu, mais qu'il n'aurait pas cru.
il reprochait à Napoléon d'être parfois trop joueur. Par
Oui.
exemple, à Waterloo, Napoléon a fait donner sa garde alors que la bataille était perdue, mais il a joué son dernier coup de dé. Il a joué le tout pour le tout, quoi. Et Clausewitz dit ça. Et au fond, il n'aurait pas dû, là, il a vraiment exagéré. En Russie, c'est un peu ça aussi. Napoléon croyait qu'il allait vaincre assez rapidement une armée russe, ce qui correspondait à sa façon de mener la guerre auparavant. C'est vrai qu'il a remporté énormément de victoires comme ça. Mais là, justement, les Russes ont reculé. Et ça, Napoléon n'avait pas vraiment anticipé, il n'avait
Mais
pas vraiment prévu
justement,
ça.
si à
Ils ont
Water...
reculé dans
oui.
un espace immense.
Mais si à Waterloo, Clausewitz se reproche alors que tout était perdu à Napoléon d'engager sa garde, il lui reproche à la Moscova et à Borodino de ne pas avoir engagé sa garde justement pour parachever sa victoire.
Oui.
Là encore, c'est les
Oui, parce que
circonstances.
là, c'est vrai, il n'est pas le seul à le dire. D'ailleurs, d'autres, des officiers français, des généraux français l'ont dit aussi.
Oui.
Pourquoi est-ce que la guerre n'a pas donné?
Oui.
Elle aurait pu parachever une victoire sur l'armée russe, qui s'est repliée, qui a reculé, qui était donc vaincue, parce que c'est un critère pour décider si on a gagné une bataille ou pas, hein, si l'on garde le terrain ou pas. C'est vrai que Borodino à la Moscova n'a pas été une victoire décisive, en tout cas pas aussi éclatante qu'Austerlitz, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que Tolstoï en parle.
Oui.
C'est parce que Austerlitz, c'est l'humiliation, mais le Borodino, c'est. Au moins là, les Russes ont bien résisté.
C'est une petite victoire en quelque sorte. Ce n'est pas le terme que vous utilisez, mais c'est que Clausewitz utilise. Hein. C'est
Ouais,
effectivement
ouais.
pas du tout une victoire décisive. Et puis il y a aussi, si c'est quelques lignes, je me permets de les lire. C'est assez étonnant sous la plume de Clausewitz. Voici ce que vous écrivez. Clausewitz qualifie d'ineptie l'engouement des auteurs de son temps pour la stratégie, entendue comme science des mouvements des armées permettant d'arriver à des résultats décisifs. Pour lui, la stratégie ne peut rien décider du tout. Elle ne fait que ménager le moment propice au combat, qui lui seul est décisif. L'art militaire consiste à viser le but le plus important, le plus décisif que l'on puisse atteindre avec ses forces, sans dépasser les capacités de celles-ci. Et à choisir en conséquence la voie la plus courte. La stratégie est une ineptie pour
Mais
pour
ça
Clausewitz. Ça,
montre.
c'est une surprise.
Oui, mais ça montre justement que le mot stratégie était compris à cette époque-là comme l'art de diriger les mouvements d'une armée avant le combat, en dehors du combat, si vous voulez. Alors, il faut savoir que certains écrivains militaires, comme Bülow, par exemple, von Bülow, qui était un des grands écrivains militaires prussiens du temps de la jeunesse de Clausewitz, et Clausewitz l'a beaucoup critiqué. Il pensait que les mouvements, au fond, pouvaient suffire à gagner une campagne si on agissait de façon particulièrement brillante. Bon, ce n'est qu'en partie vrai, hein. Même Napoléon n'aurait pas dit ça à la place de Bülow. Napoléon faisait effectivement faire des mouvements brillants à ses armées, mais à la fin, il y avait toujours une bataille, ou alors l'ennemi capitulait, comme à Ulm. Mais certains pensaient que les mouvements, au fond, étaient suffisants si on les faisait bien. Et c'est contre ça que s'insurgeait Clausewitz. Donc ça montre que, de son temps, le mot stratégie était compris comme étant l'art de bien manœuvrer, l'art de concevoir des enveloppements de l'ennemi, etc. Et pour lui, pour Clausewitz, tout ça, c'est, si vous voulez, c'est du jeu d'intellectuel, mais ça ne correspond pas à la réalité.
Alors pour revenir, si vous voulez bien, à sa biographie, Brut de Colson, telle que vous l'avez publiée aux éditions Tempus Perrin, Clausewitz, je vous propose de parler du grand amour de Clausewitz, Marie von Brühl.
Oui. Mais C'est une belle histoire d'amour, hein, quand
Et justement, ça vaut la peine de l'évoquer, vous le faites dans votre livre, donc.
c'est... Oui, et c'est aussi une dame qui est si intéressante qu'une biographie lui a été consacrée aussi.
Ah oui.
Je ne sais pas si vous le savez, mais je l'évoque un peu peut-être.
Oui.
Parce qu'elle c'était vraiment quelqu'un qui avait une grande culture. Il faut savoir qu'elle était évidemment d'un milieu supérieur à celui de Clausewitz. C'était une comtesse, hein, donc son. C'était noble, alors que lui ne l'était pas. Je vous l'ai dit tantôt, il était beaucoup plus modeste au départ. Et d'ailleurs, la mère de Marie von Brühl, bah, c'est un peu un phénomène éternel, considérait que sa fille ne ferait pas un beau mariage en épousant Clausewitz. Hein. C'est pour ça qu'il ne l'a pas épousée si vite que ça. Il l'a épousée qu'en 1810, hein,
Oui.
donc,
Alors qu'il la
alors qu'il la
rencontre
connaissait.
en 1802, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. Oui,
Oui.
il la rencontre très tôt, donc ils ont. Et c'est assez curieux, on a pas mal de détails sur leur liaison, qui était évidemment, bon, au milieu de l'époque, c'était très conventionnel, très, très guindé, finalement. Ils se sont vus quelquefois à des réceptions, et bon, c'est tout, hein, il ne faut pas s'imaginer que ça allait plus loin que ça. Mais ça montre aussi la sensibilité de Clausewitz. Sa délicatesse de sentiment, finalement, parce que ça n'est pas étranger à la finesse de ses conceptions sur la guerre. Hein. C'est quelqu'un qui avait une sensibilité humaine particulièrement affinée et prononcée. Et Marie von Brühl, qui était une comtesse donc d'origine saxonne, mais il y a un certain nombre de nobles saxons, dont le père de Marie von Brühl, qui sont entrés au service du roi de Prusse, qui sont devenus prussiens, parce que, bon, vous savez, la Prusse accueillait tout le monde à l'époque. Hein. Il y a pas mal de noms d'origine française en Prusse, puisque les Huguenots, les protestants, parfois allaient se réfugier en Prusse, qui
Bah
était un pays
on pense
non
par
seulement
exemple, oui.
protestant, mais où la li et c'est un
Ouais.
pays où la liberté
On
oui,
pense
était très
pas
grande.
Bruno Colson, puisque vous parlez juste de ça, de l'accueil large que faisaient les Prussiens aux Français, aux Huguenots français. Il y
Oui.
avait le fameux général von François. Von
Exactement,
François,
oui.
qui était le conquérant militaire, alors c'était pas forcément
Oui,
le
oui,
conquérant de la Namibie, le général von François. Et
oui.
d'ailleurs,
Oui,
c'est
tout à
incroyable,
fait.
parce qu'à
Oui.
Windhoek, il y a quelques années,
Oui.
avant l'indépendance, il y avait une
Oui.
von François Strasse.
Oui.
C'est incroyable, hein?
Oui, c'est ça.
Enfin voilà, c'est juste pour faire un petit aparté, pardonnez-moi. Revenons à Marie von Brühl, si vous le voulez bien.
Oui. Mais donc, on a eu, par leurs lettres, par des souvenirs, enfin bon, je ne sais plus exactement quoi, mais j'évoque ça dans ma biographie de Clausewitz, puisque je me base sur des sources de première main, c'est-à-dire que je fais attention à ne pas dire n'importe quoi. Et il y a pas mal de sources de première main, donc dues soit aux intéressés eux-mêmes, soit à des gens qui les ont connus. Et qui donne pas mal de détails finalement sur ces moments où Karl von Clausewitz et Marie von Brühl se sont rencontrés et finalement à l'attente qui était réciproque parce qu'au début Marie von Brühl n'avait peut-être pas fait tellement attention à Clausewitz, mais assez vite quand même elle s'est rendue compte que c'était quelqu'un qui avait une sensibilité, qui avait de l'intérêt sur le plan intellectuel, etc. Et donc, bon, ils se sont enfin, finalement mariés en 1810, comme je vous l'ai dit, dans une église qui existe toujours à Berlin,
Oui.
malgré les bombardements. Hein. Une église d'ailleurs qui était considérée comme une église française au départ. Ça, c'est curieux, mais
Ah oui.
vous l'avez dit aussi, il y avait une présence française importante à Berlin. Parce qu'il y avait une grande liberté de penser. Vous savez que Voltaire a été l'ami de Frédéric II.
Oui.
Hein, donc...
Bruno Colson, malheureusement, nous devons interrompre cette émission qui est arrivée à son terme, et vous reviendrez, si vous êtes d'accord, je serais ravi, et les auditeurs certainement aussi, que vous reveniez pour poursuivre la présentation de cette vie exceptionnelle, de cet homme exceptionnel qui était donc Clausewitz, et que l'on peut découvrir, Bruno Colson, dans cette superbe biographie que vous publiez aux éditions Tempus Perrin. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci à Laurent, merci à Stéphane à la technique. Très bon dimanche soir à vous tous et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien.
venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 15 mars 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.